cohue. Dehors, y'a pas d'étrangers, y'a que des inconnus. Solidarité, voilà ce qu'on est venu demander. La beauté n'a pas de frontières, les frontières n'ont pas de beauté.
Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique Parlons-en, la chronique qui parle des préjugés. Je m'appelle Robin, je suis volontaire en service civique et unicité et je suis accompagné de ma collègue Audrey, elle aussi en service civique. Salut Audrey.
Salut Robin et bonjour à tous nos auditeurs.
Aujourd'hui, on lance la deuxième des 6 chroniques Parlons-en, dans lesquelles on abordera le thème des préjugés. Alors rassurez-vous, il est naturel d'avoir des préjugés sur des personnes qu'on ne connaît pas, mais bien souvent, ils s'avèrent être faux. Cette émission est donc là pour en parler et les corriger.
Exactement. C'est pour ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui au thème des migrants. On se pose souvent des questions à leur égard. On entend dire qu'ils profitent du système ou alors qu'ils feraient mieux de rester chez eux.
C'est vrai qu'on entend souvent ce genre de discours.
Mais sait-on vraiment de quoi on parle? Connaît-on réellement la situation des migrants vivant sur le territoire français? Toi Robin par exemple, est-ce que tu côtoies des migrants dans ta vie de tous les jours et est-ce que tu sais qui ils sont?
Bah, je sais qu'il y en a qui sont logés pas loin de chez moi, mais je ne connais pas du tout leur situation ni qui ils sont réellement.
Alors, un migrant est une personne qui quitte son pays d'origine pour venir s'installer durablement dans un pays dont il n'a pas la nationalité. Les personnes migrantes quittent leur pays pour des raisons qui peuvent être économiques, familiales, politiques ou climatiques. Elles peuvent aussi quitter leur pays pour fuir des persécutions ou pour survivre. Dans ce cas, on parle alors d'exilés.
Ah d'accord, mais on entend souvent parler de demandeurs d'asile, de réfugiés ou encore de sans-papiers. Mais c'est quoi la différence?
Alors, un demandeur d'asile est une personne qui a subi des persécutions ou qui craint d'en subir et qui demande donc une protection. Si cette protection est accordée par l'État, cette personne devient un réfugié. Dans le cas contraire, si elle est déboutée, c'est-à-dire qu'elle n'obtient pas cette protection, elle devient ainsi un sans-papiers. Mais pour en savoir plus, je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage d'un migrant que je suis allée rencontrer.
Vous écoutez Radio B.
Vous écoutez Radio B.
Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors vous êtes Congolais de la République démocratique du Congo, vous avez bientôt 35 ans et cela fait 6 ans que vous êtes arrivé en France.
Exactement.
Alors pouvez-vous nous partager la raison pour laquelle vous avez quitté votre pays?
Vu que je me sentais menacé, vu que ma famille était dans l'opposition politique. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais bon, j'étais menacé et puis bon, j'ai préféré me retirer de ce pays-là, pour le moment.
D'accord.
Après, peut-être si ça change, qui sait, je rentrerai un jour.
Mmh. D'accord, donc vous avez quitté votre pays pour une raison qui est totalement légitime, hein, et qui est dans vos droits en tant qu'être humain. Comment ça s'est passé votre arrivée en France? Quelles ont été les premières démarches?
Alors, avant d'arriver en France, je veux préciser que je suis passé par la Belgique avant.
D'accord. Ah oui.
J'ai commencé par demander l'asile là-bas. Vu que j'ai demandé l'asile là-bas, alors ça n'a pas marché là-bas, parce que vu que la politique qui était là-bas ne voulait pas vraiment avoir... c'était pas une terre d'accueil, quoi.
D'accord.
Alors, je suis resté là-bas 3 ans. Et comme j'ai vu que ça ne marchait pas par là, et je suis venu en France.
D'accord.
Et comme en France, il y a la Convention de Genève qui dit que lorsque vous avez déjà des empreintes dans un autre pays de l'espace Schengen, vous êtes dans une procédure Dublin.
D'accord.
Dublin, c'est-à-dire que on va étudier votre cas, sinon, si ça ne marche pas en France, on va vous renvoyer en Belgique. Mais c'est une politique un peu fausse aussi, parce que ils savent bien que si je rentre en Belgique, si je vais voir les autorités belges, ils vont me renvoyer chez moi. Donc c'est un peu faux. Là, c'est cette politique-là, c'est un peu... histoire de se débarrasser des...
Oui, c'est une procédure délicate qui vous renvoie dans le premier pays où vous êtes arrivé.
Voilà.
D'accord. Et vous avez fait une demande de titre de séjour aujourd'hui, en France?
En France, normalement, je suis toujours dans la procédure Dublin, mais vu que j'ai consulté quand même un ou deux avocats, normalement, la procédure Dublin tombe après 1 an. Mais dans ce sens-là, je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet parce que bon, j'ai préféré attendre l'amendement de Emmaüs pour pouvoir voir si ça pourrait marcher avec ça.
L'amendement d'Emmaüs est une chance supplémentaire pour vous qui logez à Emmaüs d'avoir l'obtention d'un titre de séjour en France.
Voilà.
D'accord. Et ce document officiel, donc un titre de séjour, ça rend votre présence en France légale, n'est-ce pas ?
Normalement, oui.
Et ce titre de séjour vous permettrait de bénéficier de quels services exactement ? Sur l'hébergement, le travail, qu'est-ce que ça vous permettrait d'avoir en France ?
Ben normalement, du travail. Hein, du travail, normalement, je serai légal comme tel. Et je pourrais obtenir du travail légalement. Oui. Je pourrais avancer dans la vie courante.
C'est voilà. Ça. Comment peut-on appeler, du coup, votre statut sur le territoire français ?
Normalement, je suis quelqu'un qui ne devrait pas être là, comme tel. Mais je suis là. Je suis ici il y a plus de 5 ans en France, sur le territoire français. J'ai pas de casier judiciaire, j'ai jamais rien fait de mal. Et je crois que j'ai pleinement le droit d'avoir mon titre de séjour, ne fût-ce qu'un an déjà, renouvelable si possible, parce que bon, le travail, c'est pas ça qui me fait peur. Je ne suis pas quelqu'un de feignant, on va
tout
dire.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, après presque 6 ans en France, vous n'avez toujours pas de droit, vous ne pouvez pas travailler ni avoir d'hébergement légalement. Et comme vous l'avez dit au début de votre entretien, vous êtes venu en France pour avoir une vie confortable et pour échapper aux risques qui étaient dans votre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et vous vous dites aussi motivé pour travailler. Est-ce que vous avez de l'expérience professionnelle ?
Alors, moi, je suis quelqu'un qui apprend vite. Déjà, d'ici, je crois, la semaine prochaine, on va aller faire un tour vers Angers, je crois, pour un certain conseil d'administration, pour parler justement des formations et de l'accompagnement sur le point de vue travail. Moi, je suis quelqu'un qui apprend très vite, quelle que soit la tâche qu'on me donne de faire. Et je crois que je n'aurai aucun problème dans ce sens-là, quoi.
C'est primordial. En tout cas, vous êtes motivé et prêt à faire partie intégrante de la société française. Merci beaucoup, Patrick, pour votre temps et votre témoignage. Et puis, on vous souhaite une très bonne continuation.
Merci bien.
Merci à vous.
Radio B.
90 FM. On peut facilement se mettre à leur place puisqu'on aurait tous fait la même chose dans leur situation et on aurait tout donné pour avoir une vie meilleure.
Oui, j'en suis persuadée. D'ailleurs, en citant des données de la CIMAD, qui est une association de solidarité active avec les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile, on peut présenter à nos chers auditeurs quelques faits qui vont briser nos préjugés.
En effet, on peut entendre que les migrants ne savent rien faire, ce qui est complètement faux, puisqu'aujourd'hui, les personnes migrantes qui arrivent dans un pays sont souvent plus qualifiées et plus jeunes que la population française. Près de 40% sont diplômés de l'enseignement supérieur. L'absence d'équivalence en France leur interdit cependant, la plupart du temps, d'exercer le travail auquel ils pourraient prétendre.
On peut aussi entendre que les migrants sont des terroristes. Il faut savoir que les réfugiés sont les premières victimes du radicalisme et du terrorisme, c'est pourquoi ils fuient leur pays. A l'inverse, les terroristes responsables d'attentats en France sont bien souvent français ou résidents en Europe depuis des années. Les confondre, c'est ainsi jouer le jeu de ceux qui sèment la terreur, là-bas comme ici.
On entend également, par exemple, les migrants nous volent nos emplois. Faux. Dans une économie tertiaire, plus il y a de gens, plus il y a de services et plus cela crée de l'activité. Donc les migrants participent à l'économie. De plus, ils sont embauchés là où il y a une pénurie chronique de main-d'œuvre. Par exemple, comme agent d'entretien, comme ouvrier dans le bâtiment ou même comme prêtre. Ainsi, des secteurs d'activité entiers reposent en grande partie sur la présence de personnes étrangères. La recherche d'emploi leur est également difficile, puisqu'il y a souvent un problème de reconnaissance des diplômes, des difficultés linguistiques ou de la discrimination. De nombreux employeurs profitent malheureusement de leur situation de faiblesse pour les exploiter. Il ne faut pas oublier non plus que 5,3 millions d'emplois sont fermés aux personnes étrangères hors Union européenne.
Enfin, un autre préjugé courant est « les sans-papiers profitent du système ». C'est encore faux. Ils n'ont droit qu'à une seule aide sociale, l'AME, une couverture maladie limitée sous conditions de faibles ressources, et ils sont également exclus de l'accès à toutes les autres prestations sociales, et ce, même quand ils sont en situation régulière. En effet, beaucoup d'aides sont soumises à une durée minimum de résidence en France, comme 5 ans pour le RSA par exemple. Enfin, à l'image de beaucoup de Français, même quand ils en ont le droit, ils sont nombreux à ne pas en faire la demande, pour une volonté qui peut être de ne pas dépendre de l'aide publique, pour une complexité des démarches ou tout simplement à cause d'un manque d'informations.
Comme quoi, on en apprend tous les jours, même sur des personnes habitant parmi nous. Merci Audrey d'être allée la rencontrer. On passe maintenant à la Minute Agenda.
Radio B.
Radio B.
Radio B. Les bonnes ondes.
Pour revenir à la communauté d'Emmaüs de Servas, dont nous vous avions parlé lors de notre première chronique, la tournée des petites récup continue. Après être passé à Dompierre-sur-Veille et à Châtillon-sur-Chalaronne, le camion d'Emmaüs, ses bénévoles et les compagnons vous donnent rendez-vous à Tréfort le samedi 28 mars de 9h à midi sur le parking de l'école. Le but étant toujours de récupérer vos dons solidaires nécessaires à faire vivre la communauté qui, rappelons-le, accueille toute personne de manière inconditionnelle, y compris des migrants. Emmaüs organise également une grande vente tous les 3e dimanche du mois. En l'occurrence, la prochaine aura lieu le 15 mars à Servas. Si vous voulez en savoir plus sur les migrants, nous vous invitons à suivre la page Facebook du collectif Solidarité Migrants de Bourg-en-Bresse, qui organise régulièrement des événements tels que des ciné-rencontres ou des goûters solidaires par exemple.
Merci Robin pour cette minute agenda. Dans notre prochaine chronique, on vous parlera des personnes âgées. Qu'ils soient nos grands-parents, des patients en maison de retraite ou tout simplement nos voisins, notre image de ces derniers est parfois déformée. Avez-vous des préjugés sur les personnes âgées, sur leur capacité à réfléchir, à comprendre le monde d'aujourd'hui et la technologie? Pas de stress, on abordera le sujet ensemble en vous donnant un exemple surprenant.
Cette émission se termine, vous pouvez la retrouver en intégralité en podcast sur le site www.radio-b.fr.
On vous donne donc rendez-vous dans un mois, le lundi 30 mars, à la même heure. À bientôt Robin.
À bientôt Audrey et bonne journée à tous. D'ici là, portez-vous bien et allez à la rencontre de ceux que vous ne connaissez pas.
Ciao.